Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Pascal Martine Taillou, artiste plasticien d'origine camerounaise, résidente en Belgique, Nathalie Obadia, galeriste à Paris et à Bruxelles, et Alain Quemin, spécialiste de l'art contemporain, professeur de sociologie de l'art à l'université Paris 8. Pascal Martine Taillou, on a terminé la première partie de l'émission en posant la question de savoir si ce qu'avaient fait les Chinois pouvait servir de modèle pour l'Afrique et les artistes africains.
Je pense que tout ce qui est bon pour l'universel doit être utilisé. Et malheureusement, il faudra que l'Afrique attende toujours la main tendue d'ailleurs. Mais elle oublie qu'elle a des choses à offrir. Pourquoi faut-il que les Afro-Africains américains puissent permettre aux Africains résidents en Afrique de comprendre leur contemporanité? Je crois que c'est grave de pouvoir voir des choses dans ce sens. Il s'agit tout simplement de changer de stratégie et de comprendre que le monde est construit parce qu'il y a une architecture. Nous ne faisons pas de dessins, on ne fait aucun croquis, on n'y arrivera jamais. Et pour notre part, nous créateurs, je pense à mes collègues, on fait des propositions, mais on ne peut pas en même temps être créateur et collectionneur quand même.
Vous souhaitez réagir, Alain Quemin, Nathalie Obadia?
Oui, je crois que là, nous sommes tous les trois absolument d'accord. Mmh. Effectivement, le problème pour l'Afrique est un problème économique. Hein. Maintenant, ce qui est quand même très important, me semble-t-il, c'est que depuis une vingtaine d'années, les gens ont conscience qu'il existe parmi les créateurs contemporains des créateurs qui ne sont pas occidentaux, qui ne sont pas blancs, qui ne sont pas des hommes, et que justement, on avait considéré trop rapidement que toutes ces catégories-là étaient des catégories dépassées. Et donc, maintenant que la prise de conscience a eu lieu, ce qui me semble important, c'est d'essayer justement de tout mettre en œuvre pour que l'on puisse accéder à une forme de créativité beaucoup plus grande, beaucoup plus diverse que ce qui était véritablement intégré jusqu'à présent.
Alors, vous m'avez fait la transition pour la thématique que je voulais aborder ensuite, et je me tourne vers vous, Nathalie Obadia, la part des femmes dans l'art, dans le monde aujourd'hui. De plus en plus de femmes dirigent des galeries d'art en France comme aux États-Unis, mais elles sont encore confrontées à des préjugés. On estime pour la France que peu de Françaises atteignent un niveau international, alors que des galeristes américaines arrivent un peu mieux, semble-t-il, à s'imposer. Et si des galeries dirigées par des femmes se multiplient, le milieu continue d'être dominé par les tycoons, alors Larry Gagosian, David Zwerner, Michael Werner, etc. L'art, toujours une affaire d'hommes. Alors, je pose la question à une femme qui réussit bien dans ce qu'elle fait.
Écoutez, là, vous avez parlé de quatre exemples extraordinaires, bien entendu, mais vous avez omis de parler d'une grande marchande qui est décédée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Eliana Sonnabend, et qui était quand même une des plus grandes marchandes de la seconde moitié du siècle dernier, à 80 ans. C'est elle qui a fait quand même les premières expositions de Jeff Koons, alors même qu'elle était, elle défendait Rauschenberg dans les années 60. Bon. Et aujourd'hui, pour parler de l'Amérique, parce que là, sur l'Amérique, vous avez cité quatre hommes, mais vous prenez Marianne Goodman, je pense que c'est certainement celle qui a aujourd'hui un des plus beaux programmes au monde, puisqu'elle réussit même à garder Richter. Elle est la seule représentante de Richter au monde. Gerhard Richter, l'Allemand, qui est l'artiste contemporain le plus cher au monde. Donc je pense que sans être Tycoons, elle a réussi quand même un sacré tour de force, qui fait d'ailleurs beaucoup de jaloux parmi tous ces hommes.
Voilà. Alors, bon, des exemples, il y en a, hein, j'ai bien compris, voilà, mais je me tourne vers vous, Alain Quemin, dans votre ouvrage Les stars de l'art contemporain, ce qu'on voit quand même, alors Nathalie Obadia parlait des marchands, en ce qui concerne les artistes, femmes, on en trouve quand même dans des proportions extrêmement moindres. Je ne vais pas donner de pourcentage, mais j'ai en tête à peine 20%.
Absolument. À chaque fois, c'est le phénomène le plus marquant, c'est que l'on est frappé par les cas atypiques. Comme ces artistes chinois, le fait qu'ils soient très présents sur le marché, on a l'impression qu'ils sont présents partout dans le monde de l'art contemporain. Les artistes africains, le fait que l'on en voit un peu plus, certains vont vous dire parfois justement parce qu'ils sont atypiques sur la scène internationale de l'art, qu'ils se sont emparés de toutes les positions. Et c'est là où le regard sociologique peut, me semble-t-il, être intéressant. Il va permettre d'objectiver et donc de voir que quand on étudie de façon plus précise la part des uns et des autres, eh bien, si on se reporte au palmarès des artistes les plus en vue, des artistes les plus reconnus sur la scène internationale, et d'ailleurs, quels que soient ces palmarès, on n'obtient jamais davantage que 20-22% de femmes. Et si on regarde, par exemple, avec les données d'Art Price, la part des femmes parmi les 100 ou les 500 artistes qui réalisent les plus forts produits en vente aux enchères, eh bien, les femmes sont encore moins présentes, puisqu'en général, elles représentent 8 à 10% de ces artistes les plus bancables. Donc, c'est quand même quelque chose qui montre une position très, très en retrait. Et on voit que le marché est encore plus fâché avec les femmes que ne le sont les institutions. Les institutions sont plus ouvertes depuis les années 90 aux femmes artistes, mais le marché est encore assez réticent. C'est dur de vendre une femme artiste, à l'exception, bien entendu, des plus grands noms comme Louise Bourgeois, Bois lorsqu'elle était encore en vie, ou Cindy Sherman aujourd'hui, les hommes, en général, continuent à être les artistes stars qui coûtent le plus cher.
Pascal Martine Taillou, effectivement, est-ce que vous vous vendez plus difficilement depuis que vous avez féminisé votre prénom, puisqu'on est sur ce registre-là, avant de mettre un E à Pascal et un E à Martine, vous vous appeliez Pascal Martin Taillou?
Déjà, j'ai jamais voulu travailler pour l'avant, et j'ai toujours porté le même nom.
Taillou.
Oui.
C'est
non,
ça que
Pascal
vous voulez dire.
Martine Taillou. Non, Pascal Martine Taillou, les trois. Je vous rappelle d'ailleurs que pour fois j'ai reçu des invitations, Madame Pascal Martine Taillou, ne savait pas que je suis un mec ou une femme. Bon. Ce qui me concerne, la création n'a pas de genre, voilà, n'a pas de sexe. Voilà.
D'accord, mais apparemment ça en a quand même, c'est ce que nous a dit Alain Quemin. Moi j'aimerais comprendre, Alain Quemin, quelles sont les raisons finalement pour lesquelles les femmes artistes se vendent moins bien, en tout cas que les femmes aient tant de mal à trouver une place d'égalité dans ce monde de l'art avec les hommes.
Alors je pense que c'est vrai dans toutes les sphères de la vie sociale.
Mais particulièrement dans l'art.
Alors, parmi les artistes, parce que comme le disait Nathalie Obadia, ce qui m'a beaucoup frappé également parmi les galeristes, en France, c'est vrai que les plus grosses galeries sont contrôlées par des hommes, mais à New York, donc au cœur même du marché, il y a beaucoup de grandes galeristes. Nathalie Obadia a eu tout à fait raison de citer tout à l'heure Ileana Zonabend, mais, ou même Marianne Goodman aujourd'hui, mais il y a également Paula Cooper, qui est une très grande galeriste, Barbara Gladstone. Donc on voit effectivement qu'il y a des femmes qui ont réussi à s'emparer des positions clés du marché, certes derrière la Gagosian ou derrière David Sverner, mais à des positions quand même extrêmement, extrêmement enviables en termes de pouvoir. Pour les artistes, je pense que les femmes sont effectivement moins présentes, et en particulier moins présentes sur le marché, en partie parce que la figure de l'artiste continue dans les représentations sociales à être extrêmement genrée, et puis également, les gens, quand ils achètent, peuvent également faire des anticipations sur la valeur à venir des œuvres, et lorsque l'on sait que les artistes femmes coûtent en général moins chers, sont moins exposés, ont moins accès aux grandes institutions que les artistes hommes. Acheter un artiste femme, une artiste, est effectivement un peu plus risqué que d'acheter des artistes hommes.
Nathalie Obadia. Alors, je pense que c'est en train de changer. D'abord parce qu'effectivement, il y a un plus grand nombre de décideurs qui sont maintenant des femmes dans les galeries, dans les institutions. Et puis aussi chez les artistes. Le plus grand photographe contemporain américain est une femme, Cindy Sherman. Et puis parmi les peintres américains aujourd'hui, et en plus venant d'ailleurs d'Afrique, c'est quand même Julien Meretout. Un tableau s'est vendu quand même 5 millions de dollars à la foire de Bâle, et cet artiste doit avoir 45 ans. Donc je pense que c'est en train de changer, et même aujourd'hui en France. Très sincèrement, je pense qu'il y a moins de différentiel de prix entre un artiste homme et un artiste femme. Je crois que c'est en train de changer.
Alors, la question de l'argent dans l'art, la hausse des prix, les œuvres d'art se vendent des millions d'euros et des millions de dollars. Quelles en sont les raisons rationnelles, irrationnelles? Est-ce que c'est l'arrivée de nouveaux pays et de nouveaux acteurs richissimes dans le monde de l'art? C'est vrai que les milliardaires sont prêts à tout pour obtenir leur trophée. On a totalement quitté la rationalité. Nathalie Obadia.
Je ne pense pas. Il y a bien sûr 5% d'un certain marché comme ça qui est très spéculatif. Vous parliez de trophées, c'est un peu vrai. Mais le reste, ce sont vraiment des véritables collectionneurs. Simplement, ils ont beaucoup d'argent. Il se trouve qu'aujourd'hui, le monde de l'art est absolument globalisé. Donc pour un très beau, par exemple, tableau de Gerhard Richter ou une sculpture de Kunz des années 80, il y a 10 ans, il y avait peut-être 5 personnes qui pouvaient se l'offrir. Aujourd'hui, il y en a peut-être 100. Donc forcément que ça fait monter les prix. Mais l'irrationalité n'est pas là. Elle est dans un tout petit pourcentage finalement, ce dont on parle beaucoup, mais ça n'est pas la grande majorité du marché.
Alain Quemin.
Oui, c'est un capital de jouissance, hein, acheter de l'art. Il y a la dimension plaisir qui est très importante. Et puis également, c'est une façon de marquer sa réussite sociale pour certains acheteurs. Je crois qu'il faut effectivement distinguer, exactement comme le faisait Nathalie, les achats qui sont des achats plus ordinaires, voilà, et puis les gens qui sont des méga collectionneurs qui sont prêts à payer des prix extrêmement élevés. Mais lorsque l'on voit, par exemple, un Balloon Dog Jeff Koons, qui doit exister, si je ne me trompe pas, à 5 exemplaires, lorsque 4 sont déjà possédés par 4 des plus gros collectionneurs au monde, lorsque le 5e passe en vente aux enchères, celui qui achète le 5e exemplaire devient symboliquement l'équivalent de 4 des plus gros collectionneurs au monde, sans avoir forcément donc tout leur background, tout leur passé de collectionneur. Donc on voit quand même qu'il y a des enjeux de positionnement social extrêmement élevés, et que des gens comme ça, qui constituent parfois des fortunes considérables en l'espace de quelques années, notamment ces nouveaux collectionneurs, ces nouveaux entrepreneurs, on pourrait dire ces nouveaux riches, chinois, russes, de pays émergents, lorsqu'ils vont acheter de l'art contemporain, vont légitimer très rapidement leur nouvelle fortune. Donc je pense que cela rend l'art contemporain au niveau de prix les plus élevés extrêmement désirable. Et puis également, il y a le fait que l'art contemporain étant de plus en plus visible, il y a des gens qui ont de plus en plus envie d'acheter de l'art contemporain parce qu'on en parle de plus en plus, parce que l'art contemporain aujourd'hui est quelque chose de beaucoup moins confidentiel qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans.
Pascal Martine Taillou, vous souhaitez réagir ?
Bon, je pense que c'est la sincérité des œuvres qui pourrait rencontrer l'autre sincérité. Mmh. Parce qu'en fait, finalement, acquérir une œuvre, c'est avoir un nouveau copain, un nouveau ami. Et bien, sachant que si après on se détache de son ami, ça pourrait être pour des raisons de spéculation, de vente, bien d'un appât plus grand. Mmh. Moi, je crois que une œuvre n'est pas forcément le coût. C'est l'intensité qu'on y met. Et c'est la rencontre entre l'imaginaire de l'acquéreur et celui du faiseur.
Oui, mais là, vous êtes un romantique de l'art, à ce que j'entends, Pascal Martine Taillou. Parce que quand Alain Comin évoque l'idée, à travers l'acquisition d'une œuvre d'art, qu'il s'agit d'un enjeu de positionnement social, moi j'ai cette question. Quel impact cela a-t-il sur la qualité de l'art, Nathalie Obadia?
Pascal Martine Taillou. Pascal d'abord, oui.
Je crois que si au moins cette posture pouvait être transférée dans les gènes des collectionneurs l'autre continent, je dis l'Afrique, je serais déjà content. Il faut qu'ils comprennent aussi que bon, la qualité d'une collection, c'est pas le nombre de voitures qu'on a dans son parc. Parce que collectionner d'artistes, c'est collectionner l'inconnu, c'est rentrer en relation avec l'inconnu, avec l'universel. Je crois qu'à un moment donné, on amasse les richesses, disons, l'argent, ça savoir le distribuer. Voilà. Et redistribuer aussi à celui qui pense aussi avoir créé quelque chose parfois par rapport qu'à son âme, à son esprit.
Nathalie Obadia.
Non, juste pour, on parlait justement de ces collectionneurs qui avaient envie justement de se faire reconnaître socialement grâce à leur collection et qu'ils les commencent parfois pour de mauvaises raisons, mais à la fin on en profite tous. Je pense notamment à la collection Frick à New York. Frick avait commencé sa carrière de grand industriel à Pittsburgh et puis il est parti après à New York justement parce que il avait été très mal vu en cassant des grèves de façon extrêmement violente. Voilà. Et il a commencé donc à New York une nouvelle vie. Il a décidé d'avoir une collection formidable. Et quand on regarde les archives de cette collection, on s'aperçoit que finalement, il faisait exactement comme aujourd'hui, c'est-à-dire que dès qu'il achetait un tableau très important, il faisait en sorte que ce soit écrit dans la presse quotidienne de New York, il faisait savoir qu'il achetait tel tableau, le plus cher, et en même temps, il faisait des arbitrages pour avoir le deuxième Vermeer, il a été obligé de vendre des Rembrandt, il a essayé d'arriver au maximum de la qualité. Et lorsqu'aujourd'hui, 150 ans à peu près après, on va voir cette collection, il ne nous reste quoi que les chefs-d'œuvre, et peu importe la manière et le pourquoi du départ. C'est intéressant pour nous, mais on passe en tout cas deux heures merveilleuses. Même si au départ, c'était vraiment pour des raisons, c'était pour se faire une certaine virginité.
Mais à l'époque, et sans citer le nom de l'artiste, on n'achetait pas des grands cœurs en plastique. Voilà, les œuvres d'art et les acquisitions qui se faisaient reposaient peut-être sur des critères évidemment différents, parce que tout bouge et tout change à l'incommun.
Alors, il est certain que lorsque l'on achète de l'art contemporain, on accepte une certaine part d'aléatoire. Les générations suivantes décideront, après nous, de ce qui était véritablement bon au sein de notre époque. Voilà, donc il faut toujours être très humble, aussi bien pour les galeristes que pour les critiques, même que pour les artistes, lorsqu'ils jugent le travail de leur père. C'est évident que nous sommes amenés, les uns et les autres, en tant qu'acteurs du monde de l'art contemporain, à nous engager, à exprimer des jugements, mais je pense que bien malin celui qui pourrait prétendre connaître aujourd'hui ce que les générations futures considéreront comme étant la qualité ultime.
Alors, on a parlé... Oui, Pascal, Martine Taillou, vous souhaitez rajouter quelque chose?
Non, mais c'est bien dit, parce qu'une œuvre, finalement, c'est sa dose de sincérité. Voilà, c'est pas son coût, c'est pas son prix. Pour quelques-uns parmi nous qui peut-être espèrent avoir une petite page sur un magazine le plus coûté, bon, ça, ce n'est que du leurre. Finalement, le plus important, c'est ce que l'on donne chez soi tout seul. Voilà, et ça ne pourra pas tromper au moment du dernier jugement.
On n'y est pas encore. On parlait d'œuvres qui se vendaient à des prix abyssaux. Est-ce qu'on peut encore acheter de l'art aujourd'hui avec un portefeuille somme toute assez modeste, Nathalie Obadia?
Bien entendu, il faut simplement retourner aux sources. Les sources, ce sont les galeries. C'est finalement dans ces lieux que l'on va trouver la création contemporaine, que l'on peut venir, revenir, discuter. Je pense que c'est exactement comme ça qu'on peut accéder aux jeunes créateurs à des prix raisonnable, qu'on peut s'entendre sur des paiements échelonnés, qu'on peut réfléchir. En fait, bon, que je crois qu'on a un rôle à jouer très important. Et le fait même que des prix abyssaux existent dans les ventes aux enchères, finalement, est une très bonne publicité pour nous galeristes, parce que justement, cela pousse les nouveaux amateurs et collectionneurs à venir en amont voir ce qui se passe et essayer justement de comprendre et même d'acquérir des œuvres d'art contemporain à des prix raisonnables.
Alors justement, vous évoquez une question que je voulais aborder maintenant à ce stade de l'émission. C'est la concurrence entre galeries et maisons de vente. Vous êtes vous-même galeriste. Les maisons de vente, je pense que dans les journaux, chaque semaine, on entend de nouveaux records qui sont battus. Comment se passe cette cohabitation entre galeries et maisons de vente? Je me tourne vers vous, Alain Quemin, parce que peut-être c'est une question difficile pour Nathalie Obadia, ou en tout cas qui réagira à ce que vous aurez dit.
Alors il y a une forme de concurrence, disons que traditionnellement les galeries s'occupent du premier marché, c'est-à-dire la première vente des œuvres, et après, effectivement, certaines galeries peuvent faire du second marché, mais lorsque l'on se situe à des niveaux de prix élevés, souvent les vendeurs vont avoir tendance à s'adresser aux maisons de vente aux enchères. Il y a une réaction il y a quelques années, quand certaines maisons de vente aux enchères ont voulu également concurrencer les galeries sur leur propre terrain, faire du premier marché et acquérir des galeries, c'était le cas de Christie's avec Haunch of Venison, mais les galeristes, fort le logiquement, ont essayé justement de garder leur prêt carré et de faire en sorte qu'il y ait donc un premier marché, les galeries, un second marché, revendre des œuvres avec des prix élevés, plus loin dans la carrière, par les maisons de vente aux enchères. Mais je voulais quand même aller dans le même sens que ce que disait Nathalie tout à l'heure. Il est tout à fait possible aujourd'hui d'acheter de l'art contemporain pour quelques milliers d'euros, déjà de très bons artistes. Et ce qui me surprend toujours beaucoup, c'est qu'en fait, lorsqu'on achète des œuvres dans des galeries très reconnues, donc avec des galeristes qui sont normalement des professionnels qui vont d'une certaine façon certifier la qualité de ce qu'ils vendent, ce n'est pas forcément plus cher que lorsqu'on achète dans les toutes petites galeries dont le devenir des artistes est beaucoup plus aléatoire.
Nathalie Obadia ?
Je souscris complètement à ce que dit Alain, c'est tout à fait juste et j'encourage effectivement tous les amateurs à, voilà, à prendre le chemin des galeries régulièrement, à lire les revues d'art, à visiter les musées, à se former l'œil, et c'est ainsi que petit à petit ils pourront acquérir et se faire une collection.
Alors, on a beaucoup parlé de la Chine, la Russie, on l'a évoqué en quelques mots pour dire qu'elle avait disparu d'un certain nombre de foires. On a parlé de la Chine, on a parlé de l'Afrique, on a parlé de la péninsule arabique. Quelques mots sur l'Inde, nouveau venu tout de même aussi sur le marché de l'art. Alain Quemin, rapidement.
Alors l'Inde, c'est aussi un pays qui est moins facile à comprendre que les pays dont je parlais tout à l'heure. Je sais qu'un des confrères proches de Nathalie Obadia, Daniel Templon également, lui connaît bien cette scène indienne. Je pense également que c'est une scène pour laquelle il faut une certaine forme de préparation. Bon, il y a des artistes qu'on nous présente régulièrement comme indiens, comme Anish Kapoor, mais qui est fondamentalement un artiste britannique. Mmh. Les vrais artistes indiens, je pense que pour bien les comprendre, il faut être un peu familier déjà de la scène de cet immense pays. Voilà.
Et en tout cas, oui, Nathalie Obadia.
L'Inde, justement, pour l'avoir visée à plusieurs reprises et à essayer de regarder un petit peu ce qui s'y fait de près, est beaucoup plus fragile que la Chine. Mmh. Donc, il y a, voilà, le manque, c'est justement le réseau local. C'est-à-dire qu'il y a finalement, en dehors d'une petite poignée de collectionneurs très, très fortunés, il n'y a pas de marché local. Donc, le terreau de collectionneurs suffisant. Donc, très peu de galeries, des galeries extrêmement fragiles et surtout aucune institution publique, à part un musée à New Delhi qui est vraiment très vétuste. Donc, forcément, c'est extrêmement compliqué pour ces créateurs indiens d'être présents dans leur pays et donc c'est forcément beaucoup plus difficile, en vrai, d'être exporté.
Et en tout cas, et pour finir cette émission, dans cette mondialisation de l'art, ce que je retiens de ce que vous avez dit les uns les autres et particulièrement Alain Quemin, c'est que l'Occident était finalement, et toujours un point de passage obligé pour l'art aujourd'hui et pour une réussite dans l'art.
C'est un gatekeeper, c'est effectivement l'Occident qui continue de contrôler quels sont les artistes qui seront appelés à rester, donc de façon un peu durable, dans l'histoire de l'art contemporain.
L'Occident, un gatekeeper. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Pascal Martine Taillou, artiste plasticien d'origine camerounaise et résident en Belgique. Nathalie Obadia, galeriste à Paris et à Bruxelles. Et Alain Quemin, spécialiste de l'art contemporain, professeur de sociologie de l'art à l'Université Paris 8 et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Dernier ouvrage, Les stars de l'art contemporain aux éditions du CNRS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique, le débat. Émission signée Marie-France Chatin et Nathalie Laporte avec la contribution de la documentation. À samedi prochain.